France Culture.
Moi, il y a des gens que j'aime, que j'ai aimé, qui ont voté Le Pen. Et c'était des braves gens. Parfois, quand j'entends des athélos autour de moi dire ce qu'ils en pensent, ils les considèrent comme des monstres. Ça me rend dingue et je pense que ça rend les gens fous. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de tout renverser quand on se sent méprisé comme ça. Et puis d'inverser le stigmate, c'est-à-dire que le mépris s'exerce en retour, quoi.
Dans l'approche du vote RN, il y a quand même cette dimension moi, que j'ai beaucoup entendue, c'était mais ils ne savent pas pour qui ils votent contre leurs intérêts. Il y aurait des bons pauvres, donc ceux qui sont dans le giron de la gauche intellectuelle, et de mauvais pauvres qui seraient des électeurs de droite et maintenant d'extrême droite qui ne comprennent rien à l'équation et qui ne font que se tromper et à qui il faudrait donner plus d'informations et qu'il faudrait, entre guillemets, éduquer pour les ramener dans le droit chemin.
Entendre la France rurale, un documentaire de Salomé Berlioux, réalisé par Véronique Samouilov.
Aujourd'hui, c'est difficile en fait d'esquiver la réalité de l'ancrage du vote RN parmi la jeunesse rurale. Et quand on voit en fait tous les copains, copines, plus ou moins être d'accord sur un sujet, on a envie d'être dans le conformisme. Il ne faut pas oublier que la jeunesse, c'est aussi l'âge du conformisme.
Épisode 4, ruralité et politique. Loin des villes, loin du cœur.
Moi, je suis conseillère municipale et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, ils sont souvent en colère dès qu'il y a un petit truc, dès qu'il y a un problème sur la route, un nid de poule, des caca de chien. C'est des personnes qui, parce qu'elles ont ces colères-là, vont orienter leur vote vers un vote de protestation. Et c'est vrai que moi, je suis toujours surprise parce que aux dernières élections, ils ont voté à 55% Rassemblement National. Alors, c'est sûrement pas pour un problème d'immigration parce qu'il y a absolument pas de migrants dans notre village. Et quand je monte à Paris, je vois vraiment que les gens, ils comprennent pas ce que c'est ma vie, quoi. Quand ils disent « Ah oui, dans les territoires », mais ça m'énerve. Je sais quoi, les territoires ? Alors, il y a Paris et le reste du monde.
On la connaît, la ritournelle. Toujours la même. Répétée à l'envi devant une carte de France brune, mouchetée de rouge, rose, jaune et bleu. Le Rassemblement national occupe les campagnes. La gauche et le centre, le cœur des grandes métropoles.
On a publié une étude sur le triptyque jeunesse, ruralité et mobilité.
Victor Delage, président fondateur de l'Institut Terram, un think tank dédié au territoire.
Et ce que l'on voit, et c'est très puissant, c'est que finalement, ceux qui passent le plus de temps dans les transports votent massivement pour la candidate du Rassemblement National en 2022. Ceux qui passent plus de 2 heures par jour dans les transports, c'est 50%. Pour Marine Le Pen, ceux qui passent moins de 30 minutes, on est autour de 30%. Donc un différentiel de 20 points, c'est tout à fait significatif. On se rend compte que, en fait, finalement, que l'on vive à la campagne ou dans un centre urbain, dès lors qu'on appartient à une sociologie peu diplômée, aux catégories populaires, avec un revenu moyen assez bas, effectivement, ce sont des personnes qui vont avoir voté beaucoup plus pour la candidate du Rassemblement National que le reste de la moyenne française. Et ce qui se passe, c'est que sur les territoires ruraux, vous avez une surreprésentation, une concentration, en fait, de cette sociologie électorale, ce qui explique, bien évidemment, le fait que ces territoires soient les premiers à voter pour le Rassemblement National. Et ce que l'on observe, c'est que là où le vote RN perce particulièrement sur cette typologie de territoire, dans les territoires peu denses et très peu denses, c'est là où il y a eu beaucoup de désindustrialisation à partir des années 1980, l'explosion des corps intermédiaires, et tout cela effectivement a entraîné un vote massif pour le Rassemblement National qui n'a que fait se décupler peu à peu au fur et à mesure que les élections pouvaient s'enchaîner.
La question des clivages ville-campagne, parce que c'est quand même un peu ça. Hein. Et cette question est très ancienne. Elle fait des apparitions et des disparitions et des réapparitions en mode Loch Ness dans l'histoire de France. Et là, on est plutôt dans une phase de réapparition de ces tensions.
Gilles Clavreul, préfet des Landes.
Alors ça se mesure de plein de façons, soit par des sondages, soit, j'allais dire, sur des évolutions électorales ces dernières années. une évolution très très forte du vote dans le monde rural en faveur de l'extrême droite, qui était pas du tout le cas. C'était au contraire, plus on était dans un territoire rural et moins ça votait pour l'extrême droite, et c'est sensiblement quasiment l'inverse depuis une grosse dizaine d'années. Et ce qui l'alimente, c'est un sentiment de relégation, d'abandon, de plus être dans le décor, d'être abandonné par l'État, entre autres, et d'être surtout en porte-à-faux avec les élites métropolitaines, leur mode de vie, leur représentation du monde, leurs préoccupations.
Et puis, il y a l'effet groupe, ça c'est très puissant. Il y a une dizaine d'années, dans la ruralité, dire qu'on votait pour un candidat du Rassemblement National, c'était encore mal perçu. Aujourd'hui, c'est presque devenu normal. C'est ce qu'on entend souvent. J'ai voté pour Jordan aux élections européennes ou pour Marine à la présidentielle. C'est presque devenu un marqueur identitaire, d'une certaine manière, une revendication, une certaine fierté, parce que beaucoup de ces gens-là ont le sentiment, finalement, que ce sont ces candidats qui les représentent. On a essayé la gauche, on a essayé la droite. Ils ne me connaissent pas. Eux, par contre, parlent de l'essence, parlent de la voiture, sont contre les 80 km/h, etc. Donc, eux connaissent mon quotidien.
Mais donc, ce vote des ruraux, ce serait un vote d'adhésion. Parce que seul le RN serait capable de leur parler, et notamment aux classes populaires qui vivent majoritairement dans ces territoires. Ou alors, un vote de contestation. Parce que les ruraux en auraient ras-le-bol de passer derrière toutes les autres priorités. Est-ce que c'est une affaire de niveau de vie ou de diplôme? Ou est-ce que c'est un besoin de plus de sécurité, comme certains aiment le répéter? Est-ce que c'est l'abandon de certains partis, plutôt, qui aux élections nationales ne prennent même plus la peine de faire campagne dans ces coins peu rentables en termes de stratégie électorale? À chaque élection, ces questions reviennent. Ceux qui les posent comme ceux qui y répondent sont rarement les premiers concernés.
C'est Bourdieu qui disait « les classes populaires ne parlent pas, elles sont parlées ». Et je crois qu'il y a un gros travail à faire pour arrêter de les parler et d'essayer d'écouter ce qu'elles ont à dire, puisqu'elles parlent beaucoup.
Rose Lamy, auteure d'Ascendant Beauf.
Elles ont beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes, elles parlent encore beaucoup, mais j'ai le sentiment qu'on cherche à leur donner des affects et des idées, de les sous-titrer, en fait, au lieu de les écouter. Et dans le féminisme, on nous a souvent dit que MeToo était une libération de la parole, et nous, on répond non, c'est une libération de l'écoute, parce que les gens ont toujours parlé. J'ai l'impression qu'on n'en est pas encore là. Parce que si on veut écouter, déjà, il faut se taire et essayer de se déplacer, et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer. Moi, je trouve que ça oscille encore trop entre soit la diabolisation, il n'y a rien à espérer d'eux, donc on va s'en détourner complètement et partir sur une autre stratégie électorale. Et puis, en réponse à ça, des fois, une vision un peu trop fétichiste ou misérabiliste, à mon sens. Le revers de la médaille du mépris, c'est cette forme de fétichisme.
Moi, je suis tout le temps emmerdé parce que quand je suis dans la petite ville d'où je viens, les gens tiennent parfois des propos. Je me dis, putain, c'est limite. Et je me fais l'avocat de ma caste culturelle et maintenant bourgeoise. J'en suis, quoi.
Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018.
Et en même temps, dans des rencontres, quand je parle avec des gens, des écrivains, des intellos, je faisais récemment une rencontre à Normal Sup. La vision qu'ils ont de tout ça me hérisse, parce que en fait, on a l'impression que c'est plus des êtres humains, quoi. La polémique sur le barbecue, c'était cinglé, quoi. Enfin, c'était presque des ennemis de l'humanité. C'était des virilistes en puissance. Et je veux dire que moi, j'en ai fait un la semaine dernière, j'en fais un demain de barbecue. Je peux vous dire que c'est pas ça qui s'y joue. Voilà. Vous voyez, je m'énerve.
Moi aussi, j'étais à la campagne cet été-là, en vacances, dans un sud de la France plus populaire et agricole que French Riviera. Je tentais pour quelques jours une diète informationnelle et j'étais passée à côté des propos de Sandrine Rousseau sur l'entrecôte et le barbecue. Et là, à la fin du dîner, alors qu'on venait nous aussi de finir une grillade, entre un dernier verre et la tarte aux abricots, cette histoire de barbecue est arrivée comme de nulle part. En réalité, ce qui a été très vite au cœur de nos échanges, ça a été la gauche et les écologistes. Je me suis retrouvée à essayer de justifier ce que je comprenais du propos en sous-texte. De fil en aiguille, ce à quoi je devais répondre, c'était à la colère de mes proches qui se demandaient ce que foutait la gauche à encore moraliser sur le mode de vie des ruraux, à encore le remettre en cause. En fait, ce qu'ils estimaient avoir vécu, c'était une attaque en règle de leur quotidien, de leurs souvenirs, de leurs habitudes. Et moi là-dedans, quelles que soient mes convictions, je savais que c'était indéfendable et que n'y voyait que du mépris.
La gauche perd les campagnes électorales, c'est entendu. Elle perd aussi la campagne, nos campagnes. Élue dans le Lot depuis 2 ans, je fais partie d'une nouvelle génération d'élus ruraux de gauche qui observent avec envie ses petits camarades des villes collectionner les circonscriptions, les collectivités, pendant que nous perdons pied, lentement mais sûrement. Mais notre bannière, celle de la gauche, n'est plus un totem, un repère capable de fédérer. Personne n'ose le dire et pourtant elle devient un boulet. Loin des villes, loin du cœur, Rémi Branco.
Qui sont ces beaufs? C'est une bonne question, qui est encore difficile à répondre si on cherche une définition exhaustive et réaliste des beaufs. Pour moi, c'est une catégorie de la population stéréotypée qui n'existe pas vraiment en tant que classe sociale. C'est plutôt un personnage symbolique du récit, exactement comme les bons pères de famille, c'est pas une classe sociale. Pourtant, on voit à peu près qui c'est. Ben, pour moi, les beaufs, c'est ça, c'est une sorte de mythe, une sorte de personnage symbolique qui a toutes sortes de d'utilités sociales. Et quand même, si on cherche une définition précise, ben, y en a une dans le dictionnaire qui nous ramène au beauf de Cabu, donc un personnage de BD qui a été dessiné en 72 et qui serait en quelque sorte le français moyen, le français qui vote à droite, puisque la question du vote est quand même centrale dans la figure du beauf, et qui aurait le goût pour la chasse, la télé, le PMU, le PSV, les bières... Donc raciste, misogyne, inculte. Voilà, ce serait ça le beauf. Et dernière chose importante pour comprendre sa définition aussi, il est pensé avec un antagoniste qui est le grand Duduche, qui lui est un lycéen élancé, progressiste, antiraciste, militant, féministe, LGBT, enfin tout l'inverse absolument, en symétrie de ce qu'est le beauf.
Et en fait, dans ce que vous décrivez, on comprend bien que le beauf, aujourd'hui, vu depuis Paris, est souvent provincial, y compris parce que, comme il y a la dimension classe populaire et qu'une grande majorité des milieux modestes vivent en dehors des grandes métropoles, c'est là où, à nouveau, ça se réimbrique.
Voilà. Après, le beauf, si je devais lui accorder une seule définition personnelle, c'est qu'il est considéré comme un paria de la méritocratie. C'est celui qui bouge pas. Qui bouge pas du point de vue territorial, qui bouge pas du point de vue culturel, qui se satisfait d'une vie qu'on imagine médiocre ou pas assez réussie ou pas assez remplie. C'est celui qui se transforme pas grâce à l'école, qui se transforme pas grâce à la culture, ou en tout cas par la culture légitime, évidemment, et qu'on considère comme étant la personne qui se laisse porter par la vie, qui mène une vie un peu nulle, un peu médiocre. Donc évidemment, ça rejoint la question territoriale, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on nous dit que pour réussir sa vie, il faut partir. Donc si on reste, c'est que quelque part, on partage cette définition d'être un peu moyen ou de pas vouloir s'émanciper.
Oui, on n'a pas d'ambition.
Voilà, pas d'ambition, ça peut être ça. De toute façon, il le dit, Cabu, on est tous le beauf de quelqu'un. Dans la suite de la phrase, il y a quand on se laisse aller. Il y a quand même cette dimension de non-performance qui est importante à comprendre.
Que les gens se sentent méprisés comme ça, ils ont raison. La richesse, il n'y a pas de trickle-down de la richesse, mais du dédain, putain, ça dégringole à mort, quoi. Quand on se sent humilié ou déconsidéré. Mais c'est bien la moindre des choses. On peut avoir envie de se venger. Quand les gens se sentent déconsidérés à longueur de temps sur par rapport à la manière dont ils vivent, par rapport à la manière dont ils élèvent leurs enfants, par rapport à leurs usages, leurs désirs, etc. Ben ça rend fou un peu. Enfin, en Les gens qui ont un BTS, ils n'ont pas moins envie d'avoir une vie réussie que ceux qui ont fait normal sup. C'est quand même cinglé qu'on ne se rende pas compte de ça. Quand une secrétaire d'État dit qu'il faut qu'on en finisse avec les pavillons, bah peut-être qu'il faut en finir avec les apparts de 200 mètres carrés dans le 7e aussi. On pourrait aussi commencer par là. Que le désir des gens, c'est d'avoir un chez-soi et d'emmener emmener leurs gamins en vacances 15 jours par an, ça me semble pas cinglé comme ambition. Moi, mes parents, c'est ce qu'ils ont voulu. C'est comme si le bonheur d'en bas n'avait pas de valeur.
C'est pour ça que je voulais parler des beaufs et de culture et de mépris culturel, parce que je comprends ce que ça veut dire en termes de diplôme. Et il y a beaucoup de gens qui sont très conscients d'avoir été triés. C'est ça, en fait, le paradoxe du récit méritocratique, c'est qu'on parle que de ceux qui sont passés de l'autre côté, en faisant des exemples de réussite et en nous rappelant que quand on veut, on peut. Mais l'extrême majorité de la population qui n'est pas passée de l'autre côté, on voudrait nous faire croire qu'elle n'en pense rien. Mais elle est très lucide. Elle voit bien que ses enfants se font trier, qu'elle s'est fait elle-même trier, et que ce sentiment de mépris, ça le dérange pas. C'est ça aussi qu'il raconte.
Ça n'a aucun intérêt, franchement. Ah, vous connaissez.
Juanita Banana, Juanita Banana. Oh, si je connais. Oh, alors, c'est ça.
Moi, j'avais dit à un copain, on est allé voir un film français, voilà, une comédie, voilà, c'était pas horrible, mais c'était pas génial non plus. Et je lui ai dit à la sortie, c'est la dernière fois que tu me traînes voir un film sur une famille de Parisiens bourgeois qui se déchirent pour organiser l'héritage de leur grand-mère. C'est pas ma vie. Nous, les héritages, c'est vraiment des maisons de petits villages abandonnés qu'on n'arrive pas à vendre plus de 25 000 euros quand ça se vend. Voilà, je comprends ça à force. C'est à force. C'est fatigant et on se dit, mais vraiment, nos modes de vie sont inconnus ou méprisés. Quand est-ce qu'on parle des miens ? Et quand est-ce qu'on parle de ma vie ? Et ça se joue aussi dans les représentations culturelles et au cinéma. Et pour parler aussi du mépris des modes de vie, ne pas vivre à Paris, c'est pas l'échec d'avoir essayé d'y aller et de pas avoir réussi, c'est que c'était pas un désir au départ. On n'a pas envie de vivre à Paris dans 9 mètres carrés, c'est sale, c'est pollué. Voilà, c'est des contre-discours et des contre-champs qui manquent et qui donnent cette impression de jamais être représenté.
Dans une étude publiée en juin 2025, il a été demandé à un panel de 1500 ruraux représentatifs de la ruralité française s'ils se sentaient ou non représentés par les institutions, les médias. Seuls 10% des ruraux sondés disent se sentir bien représentés par le gouvernement, 12% par le Sénat, 13% par l'Assemblée nationale. Seuls 19% des ruraux interrogés disent se sentir bien représentés par les séries, 21% par la presse nationale, 26% par la littérature. Sur tous ces items, de la télévision à la musique en passant par le cinéma, le seuil des ruraux qui estiment se sentir bien représentés ne dépasse jamais un tiers des sondés.
Moi, ce que j'ai vu de l'autre côté, parce que moi, j'étais du point de vue des ruraux, et donc je voyais les ruraux retourner en permanence les stigmates contre les urbains. C'est-à-dire que pour eux, les urbains vivaient une vie, ils parlaient souvent d'arnaques, de gens qui justement ne savaient pas là où était la vraie vie, acceptaient de vivre dans des cages à lapins, de travailler même dans des métiers où on croule sous la paperasse, les normes, où on n'a pas d'autonomie, on n'a pas de liberté. Enfin, il y avait tout un truc en fait où le style de vie urbain pour eux était vu vraiment comme un négatif, et où pouvait y avoir là pour le coup non pas un sentiment de supériorité, mais simplement à l'idée d'être plutôt au bon endroit.
Benoît Coquart, sociologue, auteur de « Ceux qui restent ».
Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la capacité, y compris dans les catégories populaires rurales, à avoir des formes de valorisation de son style de vie. Et à se dire, ok, ils y comprennent rien, les urbains, mais c'est pas qu'ils comprennent rien, parce que forcément, ce serait nous les inférieurs. Ils comprennent rien parce qu'ils en sont pas capables, en fait. Parce que notre style de vie, en fait, est plus valorisant que le leur. Et c'est là où, moi, je trouve ça intéressant, c'est que tant qu'il n'y a pas, en fait, une concurrence entre certains styles de vie, ce que pensent les urbains, ça vous passe parfois un petit peu au-dessus de la tête, tant que vous ne les voyez pas concrètement auprès de vous. Alors que quand vous essayez d'aller postuler un emploi dans la ville la plus proche et puis qu'on vous prend pas parce que ça passe pas, là, en fait, vous avez davantage ce sentiment de mépris qui s'exprime.
Il y a une politiste américaine qui s'appelle Catherine Kramer et qui, à partir de 2012, a théorisé le concept de « ressentiment rural » et en a étudié les conséquences sur la montée du vote Trump et de ses soutiens. Catherine Kramer définit ce ressentiment comme la perception par les ruraux d'une triple injustice, politique, économique et culturelle. Dans une enquête réalisée par Rura avec INSEED, Bouge ton coq et le think tank Destin commun en 2025, l'existence d'un tel ressentiment rural en France a été sondée. Sur la perception d'une injustice politique, 81% des ruraux estiment que les politiques accordent trop d'importance aux préoccupations des villes et pas assez à celle des campagnes. Sur la perception d'une injustice économique, 76% des ruraux considèrent que les campagnes donnent plus d'argent à l'État qu'elles n'en reçoivent en retour. Sur la perception d'une injustice culturelle, enfin, 81% des ruraux estiment que les urbains ne comprennent pas ou ne respectent pas leur culture et leur mode de vie.
Le monde rural est aujourd'hui traversé par des angoisses profondes. Des écoles, des gares, des postes ont fermé. Des lignes ferroviaires ont disparu. Des industries ont été délocalisées. Des prés se sont embroussaillés. Jusqu'à présent, une forme de tranquillité et de qualité de vie compensait l'absence de certains services. Cette tranquillité n'existe plus. Le prix du caddie explose. Celui du carburant, de l'électricité, du gaz et du fioul s'envole. À quoi bon reprendre un travail à 15 km de chez soi si c'est pour perdre de l'argent, de l'énergie, du temps? Comment financer le logement des enfants partis étudier à la ville? Comment assumer la prise en charge de ses propres parents en EHPAD? De cette impuissance peut naître un sentiment de honte, de perte d'estime de soi. Rémi Branco.
Ce ressentiment prend la forme d'une impuissance intériorisée. Ça n'est pas une colère ponctuelle, mais un doute durable sur la capacité de l'État à tenir ses promesses. À facteurs égaux, l'âge, le sexe, le diplôme, la profession, les revenus, le niveau de ressentiment rural exerce un effet significatif sur la probabilité de voter ou non pour le RN. Bien sûr, ça ne signifie pas pour autant que tous les ruraux se tournent vers l'extrême droite, mais le ressentiment rural est devenu un ressort politique capable de reconfigurer les clivages électoraux. Alors, on arrive à Termes d'Armagnac, dans le département du Gers, en région Occitanie. Termes d'Armagnac, 200 habitants, c'est ce qu'on appelle une commune rurale à habitat très dispersé, selon l'INSEE. On dit Termes d'Armagnac et pas les Termes d'Armagnac, même s'il y a un S. C'est deux rues principales qui se croisent, avec évidemment la mairie, une très jolie mairie avec des volets bleus, l'ancienne école qui est devenue la poste et qui est aussi devenue plus récemment une épicerie avec beaucoup de produits de producteurs locaux. L'église évidemment, avec le monument aux morts, et dans le lointain, la tour de Termes d'Armagnac. Et puis à la sortie de cette route principale, il y a l'EHPAD. Alors, on arrive à la mairie de Termes d'Armagnac. On peut entrer. C'est une petite mairie avec, tout de suite à gauche quand on entre, la salle du conseil, qui est aussi évidemment la salle des mariages, avec une petite vingtaine de chaises en bois, le drapeau, la Marianne et de grandes fenêtres qui donnent sur le village. Et ensuite, on monte à l'étage et c'est là où on va échanger avec Thibaut Renaudin, qui nous reçoit
Dans son bureau, je crois.
Thibaut Renaudin a consacré sa vie professionnelle aux questions de jeunesse.
Bonjour.
D'abord durant 22 ans à Paris, au sein de la FEV, une association qui développe des programmes de solidarité à destination des jeunes des quartiers populaires. Puis en créant INSIT, une structure d'intérêt général qui propose à des jeunes de toute la France de s'engager dans des projets concrets au sein de communes rurales. Depuis plusieurs années, il est revenu dans le village du Gers où il a grandi et dont il est devenu le maire.
Ma candidature n'était pas prévue et il se trouve que l'adjoint qui devait remplacer ma maman, parce que c'est ma maman qui était maire dans ce village avant moi, a changé de carrière professionnelle et donc il pouvait plus se présenter. Et donc cette opportunité est arrivée, je me suis dit bon ben pourquoi pas. Donc je me suis présenté aux élections, j'ai été élu. Donc,
ça veut dire que le bureau dans lequel on se trouve actuellement, vous avez vu votre maire y officier pendant plusieurs années.
Oui, pendant plusieurs mandats, oui.
Ça doit être symboliquement.
C'est symboliquement, assez fort. C'est symboliquement très fort, oui, bien sûr. Et c'est ma maman qui m'a, quand j'ai été élu, qui m'a passé mon écharpe, voilà, qui lui avait été offerte par mon papa. Donc, c'est des passages symboliques très forts. Oui.
Et les jeunes qui s'engagent dans des communes rurales à travers votre association INSIT, ils font quoi concrètement?
Près de 80% de nos missions tournent autour de la question environnementale, même si c'est pas exclusif. Donc beaucoup de projets de jardins partagés, de chemins qui relient des villages qui étaient un peu abandonnés, de valorisation de la nature, de projets, je pense à un projet par exemple en Normandie, autour de points d'eau, de mares, qui était vraiment une tradition dans le village qui était un peu abandonnée. Donc, mais ça peut être la question de l'accompagnement d'épiceries, par exemple, d'épiceries associatives qui peuvent se mettre en place, d'équipements sportifs. Je pense à un autre projet au Pays Basque, un magnifique petit village qui s'appelle Esterhazy, où avec les élèves du village, on est aux sources de la Nive, qui était une magnifique rivière du Pays Basque, très importante, et symboliquement. Et donc là, nos jeunes ont travaillé avec l'école autour de la question du tri, des déchets, de récupérer y compris des déchets dans la rivière, avec les habitants du village, mais aussi dans une démarche culturelle, au sein de ce village, pour faire en sorte d'amener la culture directement et faire en sorte qu'il y ait une animation qui avait peu lieu d'être et qui s'est développée depuis. Nos populations rurales vivent depuis plus de 40 ans une politique de désengagement de l'État, de nos territoires, directement. La place des services publics, dont on voit qu'elle est tout à fait essentielle. Le fait, moi, d'avoir une petite épicerie avec un relais de la Poste, là, c'est un lieu de lien social très fort. On voit bien l'incidence que ça a pour les populations. Bien sûr, sur les questions financières, on aurait bien sûr besoin de plus de moyens. Et surtout aujourd'hui, avec la question de l'intercommunalité, où les communes ont été dessaisies à la fois de la question du droit et la question de l'argent, des moyens financiers, qui ont été transférés aux communautés de communes. Donc, nos conseils municipaux sont quand même essentiellement des conseils municipaux qui valident des décisions qui ont été prises ailleurs en intercommunalité, qui, moi, me posent un certain nombre de questions d'ordre démocratique. Mais ce que je regrette des politiques publiques de l'État, c'est ce désengagement un peu général depuis une quarantaine d'années. Alors, la fermeture des classes, la fermeture des postes, la fermeture des impôts, etc. Tous ces services publics qui participaient à tisser un lien étroit, toutes ces fermetures-là ont pour effet de donner à la population le sentiment qu'ils sont abandonnés et qu'on les néglige. Et qu'en fait, ils ne comptent pour rien ou pas grand-chose. Et que les décisions se prennent ailleurs.
Consciente que ma prose ne sera qu'une goutte d'eau dans l'océan des oubliés de la République, j'aurai au moins le sentiment d'avoir accompli mon devoir. Mariole Allier.
Avant tout, merci de donner la parole au peuple et peut-être y prêter attention. Benost 1.
Extrait des cahiers de doléances 2018.
Monsieur le Président, nous avons besoin de vous parler. Vous avez besoin de nous entendre. Craponne, Rhône.
Terme d'Armagnac, impasse des Douves. Je crois que c'est là-bas la tour. Vous voulez qu'on aille voir? On peut prendre une petite rue transverse. Et donc un peu en hauteur, il y a la tour de Terme, qui est considérée comme un joyau du patrimoine médiéval gascon.
vous, Jérémy, vous êtes de Pau. Comment vous êtes arrivé dans le Gers?
J'ai rencontré Thibaut Renaudin ici sur le site de Termes d'Armagnac. Je suis d'abord entré bénévole dans cette association-là et il m'a proposé un service civique en 2012 et depuis j'y suis resté. Particulièrement, ce qui me donne envie de rester, c'est vraiment le site pour lequel je travaille, donc pour ce château historique du XIIIe siècle. Et c'est pas un château fort militaire, c'est plus un palais seigneurial, mais c'est un palais comtal, donc aux dimensions impressionnantes, donc tout en pierre de taille. Voilà. Donc aujourd'hui, il ne reste que le donjon intact.
Vous vous êtes engagé très tôt dans le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous voulez nous raconter comment ça s'est passé pour vous?
Alors bien sûr, l'élément déclencheur a été la hausse des taxes sur le carburant. Et c'est vrai que moi, comme j'utilise énormément la voiture, je l'ai vraiment vécu comme une injustice ou comme un énième obstacle, on va dire, au bien vivre dans un territoire rural.
Le moment des Gilets jaunes, c'est intéressant parce que l'augmentation du carburant...
Nicolas Mathieu.
Moi, je pense que là où elle atteint les gens, c'est pas de se dire on pourra plus aller au boulot, etc. C'est de se dire la partie qui nous restait pour les loisirs, elle va encore se rétrécir. C'est-à-dire qu'il faut quand même des... Enfin, les gens, ils sont... Au moins, il faut qu'on puisse avoir des compensations. Des moments où on se sent libre et où on gâte les gens qu'on aime et où on se dépayse, où on prend du plaisir. C'est une des phrases de leurs enfants. Chaque désir se traduisait par des dépenses de carburant. On a besoin de se déplacer pour aller au ciné, pour partir en vacances, pour faire un McDo après le supermarché, pour aller au bowling. Ça se fait pas à pied, tout ça. Et ça sera pas en bus. Donc, s'il n'y a pas de solution alternative, les gens se mettent en colère, et à juste titre.
Il est inadmissible de laisser des humains dehors jour et nuit dans un pays comme la France. Versailles, Calvados.
La poste doit être nationalisée. Pour envoyer un colis ou poster une lettre, c'est le calvaire.
Je vis à la campagne et nous avons rien.
La modernité a bon dos.
Les impôts servent pour les villes. Gargilès, Dampierre, Inde.
Cahier de doléances 2018.
Je ne supporte plus d'entendre les femmes et les hommes politiques et journalistes parler de nous en nous désignant comme la France périphérique. Où commence la périphérie? Chinon, Indre-et-Loire.
Au tout début, j'ai senti comme une forme d'espoir de se dire il y a des gens qui vont manifester, qui vont porter cette parole-là. On est vraiment nombreux, on est vraiment soutenus. Quelque part, ça ne peut qu'apporter des vraies réponses. Et en fait, on s'est très vite aperçu que ce n'était pas notre affaire et qu'on nous ferait comprendre que ce n'est pas à nous de réfléchir à ces questions-là. Et quelque part, on a un peu accepté la défaite. Enfin, ou du moins, on s'y est résigné et on est rentré chez nous. Et notamment, ça a aussi beaucoup déçu les Gilets jaunes, mais quand on a vu les agriculteurs manifester, ils ont eu énormément de poids et beaucoup plus vite que les mouvements des Gilets jaunes. Et je me souviens de la prise de parole de Monsieur Darmanin qui nous a assez choqués en disant que si les agriculteurs avaient des revendications, il fallait les écouter. Et en fait, tout au long du mouvement des Gilets jaunes, on était vraiment les feignants qui travaillent pas, les gens qui ne veulent que l'anarchie, qui veulent. Et c'est vrai qu'en fait, on est tellement peu nombreux dans la campagne qu'en fait, quand il y a une mesure qui est prise, on se dit assez rapidement que cette mesure-là, nous, elle va nous impacter de plein fouet, mais de toute façon, on ne pourra pas faire autrement, puisque on ne représente rien en fait en termes de population, et qu'on doit la subir.
Juste, Jérémy, quand vous dites que les ruraux ne sont pas très nombreux, ça m'interpelle que vous le ressentiez comme ça, parce que c'est 22 millions de personnes, enfin, c'est un tiers des Français qui vivent à la campagne.
Pour le coup, je n'avais pas connaissance de ce chiffre.
Ouais,
et je pensais qu'il était moindre. Et effectivement, c'est beaucoup, oui.
Monsieur le Président, vous faites semblant de nous écouter, mais vous ne nous écoutez pas. La chapelle au Fitzméen, il est vilaine.
J'aimerais plus de bonheur et d'amour dans le monde. Avoir plus de cadeaux à Noël et des vacances plus longues. Castries, Hérault.
Communes, communautés de communes, intercommunalités, conseils régionaux, départements, régions. Les citoyens lambda ne s'y retrouvent plus.
nous avons créé un État et une administration obèse. Tigne-Jamézieux, Isère.
Aujourd'hui, j'ai dû prendre beaucoup de recul par rapport à ça, parce que le mouvement a été très violent pour nous, il a été très dur. Ce qui fait que, ben, malheureusement, aujourd'hui, je ne vote plus. Et voilà. Et je préfère me consacrer au travail, donc à ce site qui me passionne. En fait, je vais participer à l'élection donc municipale, mais ça n'ira pas au-delà. Je me suis aperçu que la gestion d'une commune, elle est beaucoup plus pragmatique pour nous, en fait. Il y a eu les questions des médecins, il y a la question de la gestion de l'eau, il y a la question... Donc je participe encore aux élections municipales, mais je ne vais pas au-delà.
J'aurais tendance à dire qu'être maire, c'est une passion. Et c'est surtout pas un job. On n'est pas maire ni pour la gloire, ni pour la tranquillité, ni pour les indemnités. C'est à la fois être un peu policier municipal, un peu assistante sociale, un peu éboueur, un peu gestionnaire de conflits, un peu urbaniste, un peu animateur. Bon, c'est un peu tout ça. C'est ça, être maire rural. Et défendre ma commune, coûte que coûte. Deux grandes réalisations pour mon équipe municipale et moi-même ces dernières années. D'abord, notre épicerie. On n'a plus de commerce sur Terme d'Armagnac. Et donc, très vite, cette petite épicerie a grandi. Donc, c'est une épicerie associative dans mon ancienne classe. C'est un chiffre d'affaires sur 2024 qui est à un peu moins de 30 000 euros. Donc, c'est un moyen aussi, modèle économique pour les agriculteurs, les producteurs qui sont autour. Et puis, c'est un endroit où on se rencontre. Donc ça, c'est aussi très très important pour moi. Et deuxième réalisation, c'est j'ai la chance d'avoir un EHPAD associatif dans le village. Donc moi, je suis devenu président de l'association qui gère l'EHPAD. Une de mes conseillères municipales est devenue directrice de cet EHPAD, qu'on a participé à faire évoluer. Et donc, on a ouvert une cuisine 100% bio, local, fait de saison. On a aujourd'hui une vingtaine de résidents. Donc c'est une petite unité de vie dans une démarche extrêmement familiale. La question du bien vieillir qui était un peu dans notre projet initial de mandature au tout début, ben on l'applique là. J'ai coutume de dire c'est le premier EHPAD 100% bio et local de France. Voilà, c'est on peut faire de cette question du bien vieillir un objet au service du développement territorial et du bien-être des gens.
On vient d'arriver à la tour de l'âge d'or, qui est l'EHPAD qui compte une vingtaine de pensionnaires. C'est un grand bâtiment aux couleurs claires, dans un tournant un peu à la sortie du village. Il y a un monsieur qui dort devant la porte, des volets verts, beaucoup d'arbres évidemment, beaucoup d'oiseaux. Et toujours la tour de Terme d'Armagnac qu'on devine un peu au loin. Bonjour.
Alors, je vous présente Maëva, qui est aide-soignante.
Bonjour.
Véronique, qui est la directrice.
Bonjour. Enchantée, Véronique.
On vous montre un peu.
Moi, vous m'auriez dit, il y a 10 ans, tu vivras à Terme d'Armagnac et tu travailleras à Terme d'Armagnac. Je vous aurais dit, ça ne va pas être possible, quoi. Ou alors, je deviens agricultrice. Et voilà, c'est possible. C'est possible.
Bonjour, madame. En forme ? La vie est belle ?
Quand on est arrivé, les repas étaient livrés en liaison froide et c'était réchauffé par l'équipe soignante. Enfin, il n'y avait pas tout ce qu'on en... les bruits de la cuisine, les discussions sur les menus, tout ça. Il fallait manger et puis c'est tout.
Véronique Champomier.
Les résidents ne parlaient pas entre eux à table. Il y avait énormément de gaspillage alimentaire. Et on a fait des travaux, on a été soutenus par notre département, par l'État dans le cadre du pacte des solidarités, mais notamment par la G2R La Mondiale et la mairie de Terme d'Armagnac. Et là, on a Marie-André qui vient voir la cuisinière en disant « Moi, je me rappelle, ma mère, elle me faisait du riz au lait comme ça. » Alors du coup, Adeline, elle fait la cuisinière, elle fait en sorte de faire plaisir aux résidents. On n'a plus du tout de dénutrition. On a des résidents qui ont retrouvé aussi un sentiment d'utilité parce qu'ils vont voir la cuisinière et puis ils disent « il n'y a pas des choses à éplucher aujourd'hui » ou « voilà, ou je reconnais tel producteur qui est venu livrer, c'était le cousin de mon voisin ». Enfin, comme le réseau est j'en vais dire, le réseau rural, tout le monde se connaît, donc ça recrée des liens. Et puis surtout, on se régale. On se régale à table, c'est chouette.
Moi, j'ai fait de la politique quand j'étais en ville. J'en fais ici, on le fait de façon extrêmement différente. C'est-à-dire que ici, la question du compromis, la question de la discussion, y compris avec des élus, avec des qui ont des opinions différentes de moi, que je peux affronter sur le plan politique, ben c'est des gens qu'on croise tous les jours, qu'on connaît bien. Ce qui veut dire que quand nous sommes dans un cénacle politique, on s'affronte pas de la même façon. Le niveau sonore est moins important que ce qu'on peut voir aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui pour une énorme majorité de ruraux est incompréhensible. On peut avoir, et c'est bien d'avoir des idées différentes, le débat démocratique, il doit pas négliger les opinions des uns et des autres. Et moi je le fais, y compris avec des gens qui ont des opinions d'extrême droite, qui sont très loin des miennes. Mais il n'y a pas de secret, hein. Les Français et les habitants de nos territoires reconnaissent aux maires ruraux cette capacité d'être à l'écoute.
Et cette montée du vote RN, vous la voyez dans votre territoire, vous l'avez perçue aux dernières élections européennes, aux législatives anticipées, etc.
Oui, on la voit. On voit la montée du Rassemblement national et du vote Rassemblement national dans nos villages très fortement, bien sûr. D'abord, parce qu'on connaît tout le monde et puis les gens ne s'en cache pas, et donc on a des échanges, et moi je me fais un devoir de d'abord de discuter avec tout le monde, et y compris avec les gens qui sont des fois mes amis, qui peuvent basculer vers le Rassemblement national, et donc de mettre du complexe dans tout ça. Moi je pense que les gens se trompent de colère, et puis de travailler autour des vrais enjeux qui sont les nôtres. Quand on a deux tiers des insectes qui ont disparu ces dernières décennies, quand nos eaux, les eaux de nos rivières sont majoritairement polluées, bon, ça, ce sont des vrais sujets auxquels il faut qu'on s'attaque. Et il y a là quelque chose d'un peu contre-intuitif, de penser que les ruraux ne sont que chasseurs, agriculteurs, et par extension rapide, anti-écolos. Alors, ils peuvent être anti-écolo dans son acception un peu parisienne ou urbaine, ça c'est un peu vrai, mais dans la pratique, c'est absolument pas le cas. D'abord, il y a très peu de chasseurs, 4% de ruraux sont chasseurs contre 3% dans les zones urbaines, que des agriculteurs, malheureusement, il y en a de moins en moins, et qui sont de plus en plus attachés à la question environnementale, même si c'est des transitions énormes où on les laisse malheureusement, trop souvent seul face à ses responsabilités. Les pouvoirs publics sont, à mon sens, trop absents. Donc, on a cette fausse idée que la question de la ruralité est éloignée de l'environnement. Au contraire, on la vit tous les jours, pleinement et totalement. La société est complexe. Et la réalité rurale, on a du mal à la comprendre, qui est dans une période de mutation extraordinaire. Extraordinaire. Donc, les partis traditionnels ne font pas ce travail de compréhension des enjeux de la ruralité aujourd'hui. On manque, dans notre vie politique, de réflexion globale. Je pense qu'on manque de travail, d'analyse. Et en particulier les partis de gauche, y compris l'extrême-gauche dit « ça ne nous regarde pas, on s'en désintéresse, c'est pas ça l'enjeu ». Alors c'est très bien d'avoir l'enjeu des quartiers de la politique de la ville, hein, je sais pas, mais les gens qui vivent dans ces territoires-là, ils doivent être aussi écoutés, entendus, on doit les comprendre. Donc la gauche ne le fait pas, la droite plus traditionnelle, même si c'est plutôt son électorat, passe à côté, pour moi, des enjeux environnementaux et des enjeux du monde agricole. Il y aurait une telle révolution à mener. Bon. Donc, oui, on a ce sentiment aussi d'être un peu abandonné.
Dans les débats nationaux, il y a bien souvent le sentiment de la part des habitants des territoires ruraux.
Gilles Claverolle.
L'idée que l'on parle d'eux en mal, en négatif, c'est-à-dire qu'on les associe à une agriculture qui pollue, ou qui en tout cas détruit de la ressource, que ce soit la ressource en eau, la biodiversité, à une population qui s'enferme dans un certain nombre de préjugés, qui est repliée sur elle-même. Mais ça, ce sont de vieux clichés. Il suffit de lire la littérature du 19e siècle pour s'en convaincre, mais aussi qui est ancrée dans des traditions qui sont perçues dans le meilleur des cas comme ringardes et dans le pire comme étant attentatoire au bien-être animal, etc. Qu'il s'agisse de la corrida ou des chasses traditionnelles. Alors, le paradoxe, si on veut, c'est que ces chasses traditionnelles, pour ne parler que de ça, qui sont dans le collimateur de la Commission européenne, notamment, je parle de la chasse à la palombe, etc., avec des techniques de chasse très particulières, hein, c'est ce qu'on appelle la chasse au filet.
Moi, je suis pas chasseur. Donc, je parle très tranquillement. Je suis pas chasseur. La chasse à palombe, c'est une passion ici. Les gars, ils y passent leur vie, tout leur loisir, le truc. Je sais pas si vous avez visité une palombière. Non, mais c'est extraordinaire. Et on veut interdire la chasse au filet.
Dominique Coutière, fondateur du groupe industriel Bioland.
Alors, la chasse au filet, c'est un truc. Déjà, il faut arriver à faire poser les oiseaux sur les arbres qui vous entourent. Quand ils sont sur les arbres qui vous entourent, il faut arriver à les faire poser dans un carré qui fait 10 mètres sur 10 mètres. Donc, ils les chantent, ils les trucs. Enfin, c'est un truc incroyable. Ils ne tirent pas au fusil. Hein. Parce que tirer au fusil, c'est facile. Hein. Parce que faire une palombière, vous n'avez jamais vu.
Mais ils tirent pas au
fusil. Je n'ai pas de photos. Mais c'est génial. C'est des tubes, si tu veux. C'est des tubes en brande. La brande, vous voyez ce que c'est ? Et donc, ils font les couloirs, si tu veux, qui vont entourer ces filets-là. Et alors, ils vont dans le coin, ils chantent, ils truquent, ils les font poser, à venir, et le truc. Puis, il y en a, je sais pas, 100 autour. Ouais, il faut qu'il y en ait plus. Puis, il y en a 5, 10, 20. Oh, non, attends un peu. Et tout d'un coup, ploup, elles se barrent toutes. Et vous n'en avez aucune. Mais c'est un projet pour être interdit. Qu'est-ce qu'on va les emmerder ? On a fait pour les bouilleurs de crue, on a bien interdit au truc, c'est pas transmissible, ça s'arrête avec le gars, ben ça s'arrêterait avec le gars, et là on va les emmerder, on crée des trucs comme ça, et les mecs ils votent au Front National. Ben c'est bien.
Tu l'as, on m'appelle Damien, celle-là, tu l'as, au 5, hein. Tire celle qui est à droite du bâton 5, là.
Moi je tire la plus à gauche.
Moi je tire là, je vois pas, putain, il la voit pas.
Moi je tire la plus à gauche.
Oui, parce que ces histoires de chasse à la palombe, c'est comme le barbecue ou les 80 km. Pris individuellement, ça peut sembler anecdotique. Mais en fait, ça crée des brèches. Et le risque, qui est déjà là d'ailleurs, c'est que certains s'infiltrent dans ces brèches, par calcul, visée politique ou intérêt individuel. Les ruraux, eux, n'ont pas attendu qu'on les regarde pour trouver des solutions aux défis de leur territoire. Pour lutter contre cette prophétie autoréalisatrice de deux France irréconciliables. Ils s'organisent, ils s'engagent, ils innovent. Mais aussi engagés que soient ces citoyens, la lutte contre les inégalités territoriales doit aussi devenir une priorité nationale. Un sujet qui, certes, concerne les ruraux, mais également la cohésion du pays dans son ensemble. Après les Landes et le Gers, je voulais absolument qu'on aille dans le Calvados, et plus précisément dans une commune qui compte 1041 habitants et qui s'appelle Rocancourt, pour rencontrer le président de son club de foot amateur. Axel Chauvière s'est donné pour mission de faire en sorte que les habitants de son village se sentent représentés et fiers de leur appartenance à ce lieu. Et c'est fou parce que, dans tout ce qu'il fait pour raconter Rocancourt, je reconnais mon village, le club de foot, la buvette et mes voisins, mes copains de classe. Alors que je viens d'Auvergne et que lui vit en Normandie.
Donc je m'appelle Axel, j'ai 37 ans. J'habite à Seyny-Bois-le-Bou, donc à 15 minutes de Rocancourt. Donc on est situé pas loin de Caen, dans un tout petit village qui fait à peu près 1000 habitants. Donc on a une église et le stade, hein. On n'a pas grand-chose de plus que ça. Je suis donc du coup président du FC Rocancourt depuis un an et demi maintenant. Voilà. La vie au club, bah, on a un petit vestiaire, un seul terrain, on a quelques éclairages pour jouer, on a la chance de jouer le samedi soir. Et c'est là où tout le monde se retrouve, en fait, les habitants de Rocancourt, des gens qui ont habité à Rocancourt et qui sont un peu autour de Caen maintenant et qui se retrouvent ici. Donc il y a une ambiance très familiale. On vient de reprendre le club depuis un an et demi. Ce club-là, il était en sommeil depuis très longtemps. Les soirs de match, le samedi soir, il y a pas mal de monde qui vient nous voir. Puis les résultats faisant, les gens aiment nous voir. Donc on voit souvent les parents, les grands-parents, les amis, les cousins qui viennent voir les leurs sur le terrain, en gros. Et puis on a beaucoup de bénévoles qui mettent la main à la pâte, qui aident quotidiennement, en fait. Il y a beaucoup de générations qui se mélangent, en fait. Donc Jean-Mi, qui est la figure du club, qui s'occupe de tout, en fait, de laver les maillots, à organiser un déplacement. Et on a des jeunes qui ont 17, 18 ans, encore plus jeunes avec des enfants qui ont 9 ans, 7, 8, 9 ans. Et je pense que c'est un peu la volonté qu'on a ou que j'ai en tant que président d'essayer de regrouper tout le monde autour d'un centre d'intérêt commun.
Ouais, moi j'ai commencé à Roquencourt parce que nous, il n'y avait que le football. Avec tous mes potes depuis la maternelle, on s'est toujours suivis, toujours le FC Roquencourt.
Une association dans un bled comme ici, c'est pour moi déjà primordial. On a vraiment un pouvoir social, en fait. Pour moi, l'objectif principal de tout ça, c'est de créer du lien entre les gens. Et c'est pas des paroles en l'air de dire ça. C'est-à-dire qu'en vrai, les gens se rencontrent vraiment quand ils viennent au club. Et à Roquencourt, principalement, mais c'est, je pense, le cas dans d'autres villages, c'est que c'est le seul moyen de se retrouver, en fait. C'est le seul endroit où les gens peuvent discuter, passer du bon temps, pas forcément aller se faire un resto où ça va être cher, ou aller au ciné, ou ce genre de choses. Par exemple, à la buvette, on a des prix qui sont totalement vertigineux par rapport à ailleurs. Les gens peuvent venir manger un morceau, c'est pas trop cher. Boire un coup, c'est pas trop cher. Alors, des fois, on l'entend un peu ailleurs, ce genre de sujet, mais nous, c'est la vraie vie, quoi. C'est vraiment une famille où, en gros, dans les gens qu'on rencontre, il y a 3-4 familles déjà différentes qui ont le fils, le cousin, le beau-frère, machin, qui viennent, et plus ça va, plus ils sont nombreux.
Donc, c'était le dimanche matin... Avec les jeunes qu'on était, on jouait au foot sur le côté et on regardait nos darons jouer tranquille. Enfin, tu vois, on allait prendre une barre de chocolat et une canette le matin, on était contents de se retrouver et puis voilà, c'était ça quoi.
On sait qu'on jouera jamais en Ligue 1, qu'on gagnera pas la Ligue des Champions, que si on arrive au niveau régional, ça sera déjà très bien. Il faut avoir des ambitions quand on a un club de foot, c'est très bien. Mais on doit nourrir d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes pour moi et beaucoup plus fondamentales.
Bah, de toute façon, ça, ouais. À Roquencourt.
Il y avait que ça à faire, en fait.
À Roquencourt. C'est pour ça que.
Le foot, c'était. Voilà,
c'est pour ça que, avec les gars, on passait notre vie ensemble, parce qu'on était à l'école ensemble. Et le mercredi après-midi, on avait l'entraînement. Le samedi matin, on avait l'école. Et le samedi après, on jouait au foot ensemble. Il n'y avait que le dimanche où, et encore, où on ne se voyait pas, quoi. Donc.
Ce que vous voulez, c'est qu'un club de foot comme le FC Roquencourt puisse fédérer les ruraux. Et créer un sentiment de fierté au-delà du village, c'est ça? Parce qu'aujourd'hui, ça manque, selon vous?
Ouais, je pense qu'on n'est pas assez représenté sur ces sujets-là, parce qu'en fait, dès que quelqu'un performe, que ce soit dans le sport ou ailleurs, on va pas dire « Ah ouais, c'est un gars qui vient de... c'est Nibo-Albou, quoi. » On va lui dire « C'est un gars qui vient de Caen » ou ce genre de choses. Et en fait, on manque de figures sur ces sujets-là, et c'est pour ça que moi, j'appuie beaucoup là-dessus, sur la fierté d'être d'ici, en fait. C'est vraiment une fierté et ça doit être une base de travail, une base pour évoluer pour les gens. Là, je suis pas le seul à être fier parce qu'il y a un groupe de 7-8 joueurs qui sont arrivés en même temps parce qu'ils voulaient revenir à Roquencourt parce qu'ils étaient fiers de ce qu'ils avaient fait avant en tant que jeunes et qu'ils voulaient revenir ici. Donc, je pense qu'il y a une sorte de fierté qui est pas forcément dite dans les médias, par exemple, mais qui est même pas dite entre nous là. Et effectivement, les sujets de représentation, c'est vraiment une problématique parce qu'on en manque et parce que ça ferait du bien à certains jeunes notamment de se dire ah ouais ce mec là il est de mon bled, il a réussi quoi. Et je pense que le joueur, c'est pas qu'il oublie d'où il vient, parce qu'il y a toujours ce truc de revenir. On le voit beaucoup avec les joueurs qui viennent des banlieues, ils reviennent souvent soit pour aider, soit qui ont des projets associatifs, etc. Mais dans ce truc de représenter sa commune, ça n'existe pas. Moi, je connais pas un joueur de foot qui a dit « Je suis fier de venir de Pétauchno, quoi. » Et ça, c'est un problème, parce que du coup, si on veut représenter la ruralité à travers le foot, il faut qu'il y ait des étendards, en fait. Et là, on n'en a pas, malheureusement. Il y a le système de la formation du footballeur qui fait que, c'est-à-dire qu'en gros, si on prend l'exemple du joueur qui passe par Roquencourt, qui va à Caen, et après part dans un autre club... c'est fini, en fait. Il va s'identifier à son club sur le moment, il va pas forcément parler d'où il venait avant. Le travail des journalistes va certainement pas être de leur dire « Alors, vous venez de Pétauchno, c'était bien, et tout, machin. » Et c'est une problématique parce que du coup, je pense qu'on gagnerait à ça.
Un jour, je disais à une copine, en plaisantant évidemment, il faudrait que je trouve quelle actrice pourrait jouer mon rôle dans ma biographie. Mais c'était vraiment pour rigoler. Hein. Et elle m'a dit, un film, t'es gentil, ce sera sûrement plutôt un téléfilm de France 3. Et ça me fait beaucoup rire parce que c'est malheureusement, ou heureusement, parce qu'en fait, moi, je fais pas de traitement différencié entre les téléfilms et le cinéma. Mais voilà, c'est peut-être aussi quelque chose à penser dans les représentations culturelles aussi, de la place des beaufs, slash des territoires ruraux, dans le cinéma.
À la fin, c'est toujours ça qui revient. Du Cotentin à la Provence, des Pyrénées aux Ardennes. Toujours cette question de regard, de représentation, de considération. Sans misérabilisme, sans essentialisation, sans mépris non plus. Écoutez les ruraux. Laissez aux 22 millions d'habitants de la ruralité l'opportunité d'occuper leur juste place.
Je pense que c'est important pour que les grandes villes voient ce que sont capables de faire les petites. Par nos actes, on montre que c'est pas parce qu'on a 1000 habitants et qu'on a fait ça avec deux bouts de bois et une ficelle et qu'on a eu zéro budget, qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on a fait là. Et ça, c'est une forme de fierté. Et c'est une façon aussi de montrer aux gros qu'on existe en fait, qu'on est capable, qu'on n'est pas des ploucs, je pense que c'est la bonne expression. Si ça peut aider des gars ou des filles en étant fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, moi j'aurais tout gagné en vrai. C'est...
Les racines ont raison. Mon pays de passage, garde mon père, ma terre. Je garde les visages. Hier n'est plus à faire.
Merci à Nicolas Mathieu, Rose Lamy, Benoît Coquard, Émilie Agnew, Victor Delage, Gilles Clavreul, Thibaut Renaudin, Véronique Champomier, Jérémy Clermont, Dominique Coutière, Axel Chauvière. Lecture, Marc Bertin, Flora Delgove. Prise de son, Nicolas Depagraf, Marc Garvenès, Manuel Couturier, Hélène Langlois, Mathieu Leroy, Christophe Papon, Noé Chaban. Mixage, Antoine Viossa. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était Entendre la France rurale, épisode 4, Ruralité et politique, loin des villes, loin du cœur. Un documentaire de Salomé Berlioux, réalisé par Véronique Samouilov.
En attendant, je passe.